Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre podcast consacré à la Formule 1. On espère que vous avez mis vos piécettes de côté parce que on va prendre la direction de Las Vegas le week-end prochain. Et on va parler de peut-être d'une certaine menace qui règne sur ce Grand Prix avec des conditions météo annoncées un petit peu délicates sur Las Vegas. De la fraîcheur, de la pluie. T'as pris ta doudoune, Stéphane ?
Je crois que ça va être indispensable, mais en tous les cas, c'est pas le décor qu'on nous avait annoncé ou qu'on imaginait.
On va voir ce qui nous attend. Charles Leclerc, qui a dû jeter l'éponge avant même le départ au Grand Prix du Brésil et qui se plaignait à la radio d'être malchanceux. Alors, l'est-il pour de bon ? Les statistiques confirment-elles le sentiment du Monégasque ? On va faire un petit peu de fact-checking, justement, concernant Charles Leclerc. Et puis, on va anticiper aussi un petit peu sur 2024, parce que la fin de saison arrive et on aura sans doute beaucoup de choses à dire sur le point sportif après Abu Dhabi. Donc, on parlera de ce calendrier 2024. Est-ce que ça nous fait rêver ou pas ? Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés ? Ou pas. Et puis on vous dira aussi les circuits qu'on aimerait bien voir un jour en Formule 1. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. Vous avez l'habitude aussi de nous donner 5 étoiles. Une si vous n'avez pas apprécié, 5 si vraiment c'était top. Et de cette manière, vous pouvez aussi vous abonner, pardon. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. C'est particulièrement utile parce qu'on va arriver à la fin de la saison. Il y aura quelques semaines où on va se reposer un peu quand même. Et quand on reviendra pour la nouvelle saison, si vous êtes abonné, vous recevrez directement le nouvel épisode sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant, Stéphane, aujourd'hui, en parlant de cette épreuve qui nous attend du côté de Las Vegas. Et alors, on ouvre du rêve. Hein. Si vous allez sur le site officiel de la Formule 1, attention, c'est le Grand Prix de la décennie, du glamour, du rêve. Un Grand Prix absolument incroyable avec des moyennes de vitesse qui vont défier celles de Monza.
Je t'arrête, Gilles. Lewis Hamilton a dit, il y a pile un an, ça va être la plus grande course de tous les temps. Ouais. Carrément. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à la hype qu'il y avait autour du millième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, je crois que c'était en Chine en 2019. Et à l'arrivée, on a oublié tout de suite cette millième édition parce que c'était pas fou, tout simplement. Alors on va voir, vraiment, on jugera sur pièce, mais à l'arrivée.
Exactement. Dimanche. Alors, on va parler de ce tracé d'un petit peu plus de 6 km 200 avec deux zones de DRS, deux détections. Mais on commence d'abord peut-être par parler des conditions météo, Stéphane, qui vont être loin d'être évidentes. D'abord, en rapport avec les horaires très, très particuliers. Parce que, par exemple, la première séance d'essai libre, en fait, elle aura lieu, heure de Las Vegas, jeudi soir à 20h30. FP1, jeudi soir, 20h30. Ensuite, la deuxième séance d'essai libre, elle a lieu, alors ça dépend comment vous vous placez, soit jeudi soir à minuit, soit vendredi matin à 0h, comme vous voulez. Mais bon, déjà, ça, c'est quand même assez particulier. Là, il fera 16 degrés pour la deuxième séance d'essai libre. On verra à combien est l'asphalte, mais ça va commencer à être un petit peu plus délicat. Vendredi, deuxième journée, donc toujours horaire de Las Vegas, vendredi 20h30 pour la troisième séance d'essai libre. La qualif, elle est donc vendredi soir à minuit ou donc non oui c'est ça vendredi même moi je me perds alors que j'ai préparé ou samedi matin à 0h
exactement
c'est comme et là par contre 10 degrés et pluie pour la qualif ça va être sympa et donc le Grand Prix heure de Las Vegas c'est samedi soir à 18h et ça fera donc dimanche 7h pour nous 16 degrés les conditions météo ce qui est assez incroyable c'est que en fait du côté des organisateurs on n'y avait pas pensé.
Ah ben, Rosebrun a dit, quand on a signé le contrat, en fait, on n'avait pas pris en compte la météo, tout simplement. Ça veut vraiment dire qu'on est
Ils ont regardé
dans,
le chèque.
Dans
combien il y a de zéro
dans okay. l'ambition d'organiser un show, de quelque chose. On s'occupe de tout ce qu'il y a autour du circuit, mais plus tellement des conditions
du bon déroulement sportif.
Du bon déroulement. Est-ce que le circuit est bien configuré aussi pour donner une bonne course? Voilà. Alors là, bon, bah, y a une ligne droite d'un kilomètre neuf, donc ça, c'est réglé.
Avec le
pour
DRS
les dépassements. On a vu l'effet caricatural encore du DRS cette année à Sao Paulo, donc je pense qu'on va être assez tranquille là-dessus. Et c'est aussi ça un petit peu qu'on retrouve, c'est que dans une saison où on a un pilote qui est ultra dominant, il faut quand même qu'il se passe quelque chose derrière, et la seule façon de se l'assurer, c'est coup de DRS, de dépassement un petit peu superficiel. Bon, on verra bien ce que ça donnera. J'espère qu'il y aura de l'animation, mais ce que tu as avancé comme température de ambiante et peut-être température de piste aussi inquiète beaucoup les équipes. Elles disent ça va être un saut carrément dans l'inconnu. Dans ces gammes de température, on ne sait pas faire chauffer les pneus, ça ne marche jamais. Donc on va peut-être avoir des résultats un peu inhabituels.
Oui. Mais c'est peut-être ce que les organisateurs espèrent aussi, d'ailleurs, une sorte... forcément, on arrive sur un nouveau circuit, les datas dont disposent les équipes ne sont pas fiables, parce que, alors, elles sont peut-être allées découvrir l'asphalte, mais apparemment, ça a été resurfacé récemment. Comment ce revêtement va réagir à la fin de la première séance d'essai libre, à la fin de la deuxième, comment ça va évoluer? On va partir totalement dans l'inconnu. Ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais clairement, au moment où la première séance d'essai libre va se terminer, dans toutes les usines, chez toutes les équipes de Formule 1, il y a des simulateurs. Et là, les simulateurs vont se mettre à tourner avec des pilotes qui vont essayer, en ayant pris en compte les datas de la première séance d'essai libre, puis de la deuxième, puis de la troisième, d'essayer de savoir comment va évoluer la piste et comment on va pouvoir essayer de s'adapter à ce contexte qu'on ne connaît pas.
Alors, Pirelli a apporté les pneus les plus tendres de sa gamme pour essayer de les faire chauffer, mais ça, c'est un classique sur les circuits urbains, de toute façon.
C3, C4, C5.
Voilà. Alors, quant au déroulement de la course, après, tu as cité aussi l'arrivée de la pluie, possible pendant des séances de qualification. Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est annoncé comme potentiellement probable pendant la course même. Moi, ça me rappelle un peu le Grand Prix de Turquie en 2020, où il faisait froid, où la piste était froide, mais vraiment comme une patinoire, et où Lewis Hamilton avait été absolument transparent pendant la moitié de la première moitié de la course. Il avait pris soin de ses pneus, et puis il avait émergé ensuite en vainqueur à la fin, parce qu'il en avait pris soin. Donc il faudra peut-être faire attention à ce scénario qui nous réservera une énorme surprise à la fin. En tous les cas, peut-être peut-on l'espérer si on est obligé d'avoir de telles conditions, mais je ne sais pas si ça déstabilisera Verstappen. La Red Bull exploite très très bien les pneus durs. Ferrari, on a beaucoup de mal. Mercedes, on a beaucoup de mal. Donc les meilleurs, au final, resteront peut-être les meilleurs.
On va voir ça. Bon, ce qui paraît aussi fou, c'est les sommes qu'on a évoquées pour, alors non pas la construction de ce circuit, mais les aménagements qu'il a fallu faire autour, notamment la zone du paddock et les stands. On parle de centaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour ces installations éphémères.
On tourne autour de 240 millions d'euros pour le coût des stands et du paddock, parce qu'en fait, Liberty Media dit nous, on va s'installer durablement et on investit là-dedans et ça sera à nous. C'est pas comme à Monaco où on monte et on démonte et c'est terminé sur d'autres circuits en ville. Et ça nous donne des sommes folles, même 500 millions de dollars pour la totalité des acquisitions, parce qu'il a fallu acheter des terrains.
Et oui. Et c'est pas donné le terrain à Las Vegas.
Je pense
j'ai
aussi.
Essayé de m'acheter une maison.
Et puis après. On m'a dit non. Il faut construire des ponts, construire des voies pour désenclaver des parties de quartier où les riverains voudraient aussi se déplacer, sortir de chez eux. Et puis, il y a des questions essentielles de sécurité, des secours, des gens qui ont besoin d'une ambulance, de quelque chose. Prévoir aussi des passages pour ces types de véhicules. Donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que Las Vegas a prévu pour les 10 prochaines années, en fait, de fermer le strip pendant la semaine du Grand Prix. Alors, il y a un contrat pour l'instant qui est en place pour 2023, mais ils ont l'intention en fait de signer pour 10 ans. Et tiens-toi bien, Gilles, le prix du plateau, c'est-à-dire que le ticket d'entrée pour avoir une inscription au championnat du monde tournerait autour de 100 millions d'euros. Ça serait même légèrement supérieur à cette somme. Et en tous les cas, x2 par rapport à ce qui se fait au Grand Prix de Miami. Donc là, on a vu très grand.
Alors, on va s'intéresser un peu plus au sport et à ces grands prix en ville, parce que on voit quand même que ça se développe. Hein. Il y en a 5 cette saison.
Il y en a 5, tout à fait. Il y en aura 5 encore l'an prochain.
Et c'est pas forcément ceux auxquels on pense qui sont les plus grands spécialistes des courses en ville, Stéphane.
Ben oui, parce qu'on va avoir de ça de plus en plus, parce que le promoteur du championnat du monde souhaite en fait avoir un grand prix en ville facilement accessible quand un circuit est à la campagne. On voit des images d'embouteillage, c'est difficile de s'y rendre. Il faut des années pour obtenir la construction de voies de chemin de fer pour arriver sur un circuit. C'est très complexe. Et là, la solution vers laquelle on va de plus en plus, c'est des circuits en ville. Miami en est aussi l'exemple. Mais on se demande, en fait, moi, je me suis demandé, mais quel est le spécialiste? Est-ce qu'il y en a un des circuits en ville? Lewis Hamilton, 103 victoires en Formule 1, Michael Schumacher, 91. Combien de grands prix ont-ils gagné en ville? Eh bien, figure-toi que Gilles, le roi reste le roi.
Eh oui.
Il s'appelle Ayrton Senna. 41 victoires, dont 13 en fait sur des circuits en ville, 6 à Monaco, 3 à Détroit, 2 à Adélaïde et 2 à Phoenix. Et il surpasse en fait un certain Sébastien Vettel. C'est le premier pilote moderne qui arrive dans ce classement avec 9 victoires quand même, suivi de Lewis Hamilton avec 8 succès.
Alors 8 succès sur 103 pour Hamilton.
Tout à fait. Et 9 sur 53 pour Vettel. Et puis après, on a quand même Alain Prost qui n'aimait pas ce genre de circuit. 7 victoires quand même. Et puis après, à la cinquième place avec 5 succès, on a Fernando Alonso, Graham Hill, le roi du Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher.
Quand même.
Donc finalement, qui n'était pas un spécialiste des circuits en ville, Max Verstappen et Nico Rosberg. Et cette remarque, et je voulais aussi remarquer que Lewis Hamilton, on a l'impression, tous les ans à Monaco, il y a cette impression qui revient, il n'aime pas Monaco. Il n'aime pas Monaco, et là on le voit un petit peu, il n'a pas gagné énormément sur des circuits en ville, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment devenir aussi un spécialiste de cet exercice.
Mais tu sais, je trouve aussi que la Formule 1 là, suit un peu le mouvement créé par la Formule E. Ça peut paraître étonnant, mais la Formule E, ça a été un des créneaux hein, de ce championnat de voitures électriques. C'était de rouler en ville, justement, parce qu'on va chercher les fans là où ils sont, il n'y a pas besoin de se déplacer. Et quelque part, ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait du monde. Donc on se dit, le principe est bon, on y va.
C'est l'argument d'ailleurs aussi l'un des arguments forts d'une course à Las Vegas. On dit, mais il y a des hôtels partout.
Oui.
Donc là,
il y a surtout
vous pouvez
venir
en circuit, c'est ça, et des casinos.
Alors, vous aurez sans doute remarqué que ce Grand Prix de Las Vegas va se dérouler sur un circuit un petit peu particulier. Et certains y voient un cochon renversé.
Oui, quand même. Enfin, c'est assez amusant, mais c'est un hasard. Mais il est renversé. Ils ne l'ont pas fait dans l'autre sens. Hein. Je ne sais pas
après,
pourquoi.
Il suffit de tourner son écran pour que le cochon soit sur ses pattes.
Mais on a eu quelques circuits de forme bizarre quand même dans l'histoire de la Formule 1.
Justement,
étrange.
On va parler de ces tracés qui sont quand même un peu fous.
Typés, particuliers. Il y a eu d'abord des grands prix comme le tracé à Reims-Gueux. Des lignes droites, en fait, parce qu'en 1950, dans les années 50, on ne se pose pas la question de la sécurité. On veut de la vitesse et puis on relie des lignes droites par des courbes. Point. Donc ça donne un circuit comme ça assez simple à Reims, qui a eu deux versions différentes. La caricature peut-être la plus incroyable, c'est la Vus en Allemagne, où là, il y a deux grandes lignes droites avec des courbes à chaque extrémité. Puis on se dit, on fait... un grand prix sur ce tracé-là, mais figure-toi, Gilles, qu'à l'une des extrémités,
mais oui. Alors
on a
ça,
un
banquier. Je ne le savais pas. Il y a un banquier carrément. C'est un vrai virage relevé
tout à
façon
fait.
NASCAR. Quoi.
Et là encore, on est dans cette ambiance des rois de la vitesse, vraiment. Faut atteindre des vitesses assez folles.
Monza, c'était un anneau aussi.
Tout à fait. Il y a eu plusieurs éditions, 5 ou 6, qui se sont courues dans les années 50 jusqu'à 1961, je crois, où on empruntait l'anneau de vitesse à Monza. Donc, ça avait quand même un caractère particulier. Et puis là, après, on a eu le premier Grand Prix donc à Monaco, donc qui était un circuit en ville. Déjà, ça, c'était un tour de force. Et on voit arriver l'année suivante, en 51, Pedro Albès. En fait, c'est dans les rues de Barcelone et on voit eh bien, un tracé avec des angles droits parce qu'on suit le plan urbain, tout simplement. Et ça, c'est la première marque, vraiment, d'un circuit urbain parce que Monaco, c'est tout en tourniquet, finalement. Et on a des choses un petit peu plus incroyables quand même quand on regarde Zellweg. C'est pareil, là, c'est par contre le degré zéro du design.
Ah oui,
de ligne droite sur un autodrome, tout à fait. Sur l'aéroport, on ne parle pas de Spielberg, arrivé après. On parle de ce tracé-là, vous voyez, qui ressemble un peu à une crosse de hockey. C'est assez bizarre. Et puis, on a eu d'autres choses dans un passé un petit peu plus récent. Alors, le Grand Prix du César Palace, Bernie Ecclestone a dit, on va faire un Grand Prix sur un parking, tout simplement, d'Hôtel Palace. C'est assez incroyable. Vous voyez cette forme un petit peu qui se reproduit.
Ils ont fait un copier-coller. Trois fois, il y a eu erreur.
Ils ont fait ça, mais le soir, au restaurant, sur un coin de table, on dit, on va passer par là.
Franchement.
Alors, le pire, quand même, Gilles, c'est qu'il y a eu deux éditions qui étaient décisives pour l'attribution du titre mondial. Alors, ça, c'est un petit peu dommage. 81, titre de Piquet. 82, titre de Rosberg. Voilà, donc on joue un petit peu à la roulette russe là-dessus. C'était tout le monde était d'accord.
Roulette russe à Las Vegas.
Tout le monde était d'accord pour dire on n'y retourne pas. Voilà, c'était un petit peu ça.
Et on a attendu 40 ans, mais on va y retourner.
Ouais, tout à fait. Alors, Gilles, on a parlé de cette forme un petit peu bizarre, mystérieuse. Du cochon renversé du nouveau circuit de Las Vegas, mais figure-toi que aux États-Unis on avait déjà fait dans la ménagerie avec le chien couché à Détroit, comme vous pouvez voir ici. Enfin, moi j'y vois cette forme là un petit peu bizarre, toujours sur le principe des angles droits, etc. Là, comme aussi à Phoenix sur la version du circuit qui a été empruntée de trois fois à la fin des années 80, mais malheureusement on retrouve aussi ces formes urbaine, de circuit anglo-droit, comme à Bakou ou à Singapour. Et je pense que c'est une tendance forte. C'est un petit peu dommage. On croyait qu'on avait tourné un petit peu le dos à ce genre de circuit, mais eh bien, circuit de Las Vegas, le circuit de Bakou, le circuit de Singapour portent la même signature. C'est Herman Tilke et son fils, Kartsen, qui a repris les commandes. Donc, si vous avez aimé le père, vous adorerez le fils. Voilà, sur ces circuits qu'on va avoir à l'avenir en Formule 1 en ville.
Bon, on va voir ce que va nous donner l'avenir, mais clairement, on risque d'avoir de plus en plus de ce genre de tracés. On va s'intéresser un peu plus au sport maintenant. Là, on a parlé du terrain de jeu. J'aimerais bien, Stéphane, qu'on parle de Charles Leclerc, qui a donc abandonné avant même le départ du Grand Prix du Brésil. On a tous en tête cette image de la Ferrari du Monégasque qui sort de la piste. Problème technique sur la voiture du Monégasque. Et ces mots à la radio qui sont tristes, hein, parce qu'on le sent très très sincère et on le sent très très affecté. Charles Leclerc qui se plaint en fait d'être malchanceux. Et on a voulu vérifier, faire du fact-checking, savoir si effectivement Charles Leclerc était particulièrement malchanceux depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Stéphane, qu'est-ce que nous disent les chiffres concernant les abandons de Charles Leclerc ?
Ben oui, je cherchais à savoir s'il abandonne un peu plus que les grands pilotes qui ont été à la Scuderia Ferrari auparavant. On sait que c'est un peu un problème récurrent quand même, la fiabilité chez Ferrari. Est-ce que ses glorieux prédécesseurs ont été affectés de la même manière par des abandons ou des no-shows au départ d'un Grand Prix, des non-participations, parce que officiellement, ce n'était pas un abandon de Charles Leclerc, puisqu'il faut d'abord se lancer dans la course, prendre le départ pour être enregistré comme un abandon. Donc, c'était une non-participation. Et on a pris en compte d'abord ces abandons-là. Et c'est Schumacher qui arrive en tête des pilotes ayant été le plus affectés par des problèmes techniques. Je vois 32 abandons en 180 Grand Prix, ça fait 17% quand même d'abandons.
Il y a eu toute une période quand Michael Schumacher est arrivé à la Scuderia. Elle était en reconstruction, hein, cette Scuderia. Donc il y a eu quand même pas mal d'abandons à cette période-là aussi.
Il y avait un nouveau moteur qui causait beaucoup de problèmes, un V10 en 1996, et c'était la source effectivement de beaucoup d'ennuis. Et derrière, on trouve 13 abandons pour Charles Leclerc en 100 Grand Prix, tout rond, avec Ferrari, ça fait 12%.
Bah moi, ça, pour moi, ça fait 13. Hein. 13 abandons en 100 Grand Prix, pour moi, ça fait 13%.
Pardon, oui, tout à fait.
Je ne suis pas un grand mathématicien, mais je sais encore calculer ça.
Tout à fait. Je n'avais pas mis 13 parce que, en fait, j'avais au départ mis 101 Grand Prix. Je me suis rendu compte que c'était 100 parce que le 101e, en fait, n'existait pas.
Il n'y a pas participé.
Tout à fait. Donc, 13 Grand Prix, 13 Grand Prix abandonnés. Donc, ça fait 13%. Et c'est la moyenne à peu près qu'on retrouve aussi chez Sébastien Vettel sur 119 Grand Prix. Donc, ça fait 11%. Et je regarde aussi Alonso, 8 abandons en 96 Grand Prix. Ça fait 8%.
Ouais, c'est la moyenne.
Alors, lui,
haute,
il est arrivé
quand même,
hein. Dans la bonne période, quand même, Alonso, ouais. Où tout était déjà en place. Le travail était bien fait. Et il n'y avait pas de problème de fiabilité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bah, dans les pourcents, effectivement, 8% pour Alonso, 13% pour Leclerc,
c'est beaucoup plus. Ouais. C'est un petit peu plus,
c'est
quand
plus
même.
C'est plus de 50% de plus.
Mais c'est moins que la Verstappen. Référence actuelle. Évidemment, on va s'intéresser à ce qu'a fait Max Verstappen chez Red Bull.
Alors, Verstappen, figure-toi que j'ai juste compté les années où... Dans un top team, je n'ai pas pris en compte ses abandons chez Toro Rosso, où il était jeune, etc. Je n'ai pas pris en compte non plus l'année chez Sauber pour Charles Leclerc. Et là, on monte à 25 abandons en 160 Grand Prix, ça fait 15%. Il a eu aussi beaucoup de problèmes, Max Verstappen, au début de sa carrière. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ça fait partie un petit peu du processus de formation et qu'il faut qu'il l'accepte. Donc, effectivement, il est malchanceux, mais pas dans des proportions qu'on imaginait.
Ouais. Alors, le fait de se dire ça, est-ce que ça veut dire qu'il est finalement peut-être un petit peu trop tendre parce que se laisser affecter par ce genre de choses, c'est quand même... c'est quand même un facteur important. Je veux dire, si on commence à penser qu'on n'a pas de chance... c'est pas très très positif.
Alors, la malchance pour moi, c'est vraiment tu es en tête, tu domines un Grand Prix et t'abandonnes. Voilà. Et là, Charles Leclerc n'était pas en pole position. Il y a des abandons ou des non-participations qui coûtent plus cher que d'autres. Tu avais vraiment un espoir de briller. Tu avais besoin surtout d'un bon résultat.
Ouais, là, si tu parles de la pole position, on a évidemment cet exemple. Et en plus, voilà. Sachant qu'il est monégasque, on a tous cet exemple en tête où il ne peut pas prendre le départ du Grand Prix de Monaco où il doit partir en tête. Ça lui est arrivé beaucoup, ça ?
Oui, alors là, par contre, là-dessus, quand il est en pole position, alors on le sait parce qu'on a parlé de ça sur le précédent numéro des fous du volant, il en est à 11 pole positions de suite, non transformé en victoire. Il s'approche du triste record de René Arnoux dans ce domaine. Et là, on voit que lorsqu'il parle de la pole position, eh bien, il a encaissé jusqu'à présent 3 abandons quand même sur des... bris mécanique, le plus souvent, et deux non-participations au Grand Prix. Donc, on citait Monaco 2019 et puis Sao Paulo 2023. Ça fait 22%. C'est énorme quand même.
Ouais, voilà. Là, c'est beaucoup. Ça, ouais, par rapport aux autres.
Par rapport aux autres, qui s'appellent Schumacher, 10%. Hein, c'est 6 abandons, un retrait. C'était au Grand Prix de France 96 sur un bris de moteur dans le tour de formation. Vettel, il est à 8%. Et Alonso, il est à 4% quand il était chez Ferrari. Donc, Alonso, ça ne lui est arrivé qu'une fois.
Ouais.
Et à côté de ça, ben, Verstappen, c'est vrai qu'il il est dans une petite moyenne aussi. 2 abandons simplement sur 31 pole positions. Ça lui fait du 6%. Donc là, on peut dire, oui, que dans ce registre-là, Leclerc est malchanceux, clairement.
Alors, il se sent malchanceux. On voit qu'effectivement, il y a des chiffres qui montrent qu'il l'est, en partie. Est-ce que ça veut dire aussi que, penser à ça, on a souvent dit qu'il était un petit peu tendre, notamment par rapport à Max Verstappen, qu'on sent hyper agressif, hyper testostéroné quand il faut aller à la bagarre sur la piste. Est-ce que ça veut dire que un Charles Leclerc n'est pas armé pour devenir champion du monde de Formule 1 ?
Ouais, tu fais bien d'évoquer ces deux choses-là, parce qu'il faut un petit peu la baraka du champion du monde. Dans tous les cas, il faut que tu l'évites, cette malchance. Et puis après, il faut quand même le caractère aussi, un caractère où tu sais que quand tu vas au combat, bah, t'es prêt pour ça. Et là, c'est vrai que, est-ce qu'il est trop tendre ? Je dirais oui de toute façon, parce que c'est dans sa nature et qu'on ne veut surtout pas qu'il change. Moi, pour moi, Charles Leclerc, je le comparerais à des pilotes du style Alain Prost, Mika Hakkinen, Jenson Button, ou qui n'allaient pas à la guerre pour la guerre, qui n'avaient pas fait du pilotage à la dure leur principe pour dépasser, pour se combattre roue contre roue. À l'opposé, Verstappen, pour l'instant, il nous fait beaucoup plus penser à Michael Schumacher, à Ayrton Senna. C'est vrai, il a des dépassements qui ressemblent à des ultimatums. Mais ce qui m'étonne un petit peu quand même, c'est que j'ai juste remonté un petit peu l'histoire de ces rapports de force avec Verstappen. On sait que ça a commencé en Autriche en 2019, où à deux tours de la fin, Verstappen en fait le sort tout simplement pour le dépasser. Et Leclerc, il dit à la fin, le tour précédent, il avait laissé une largeur de voiture pour que lui existe, il n'était pas parvenu à dépasser, mais il avait essayé. Et puis, quand il voit que c'est maintenant qu'il faut l'opérer, le dépassement, ouais, il le met dehors, bon, tout simplement. Et là, Leclerc, il dit, de toute façon, c'est lui qui méritait de gagner, c'est lui qui avait le dessus, donc on sait comment ça se serait terminé. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il le dise comme ça. Et il dit en plus, après, il y a d'autres épisodes, il dit, moi maintenant, je sais comment ça se passe, donc j'agirai en conséquence. Mais on voit bien, même sur le départ aussi de la course sprint à Austin, qui se fait tasser complètement et qui ne répond pas, quoi. Il donne pas un coup de roue. Donc, il s'est pas mis au niveau de l'agressivité de Verstappen. Et je pense que Charles Leclerc, bien, il sera champion du monde le jour où il aura peut-être une voiture un petit peu supérieure à un pilote agressif comme Verstappen, et qu'il n'aura pas besoin justement de faire le méchant pour gagner.
Ouais, je me pose la question quand même, parce que évidemment tout le monde a en tête cette explication à Spielberg en 2019, où clairement Verstappen était beaucoup plus agressif que lui-même. Dans les conditions dans lesquelles on était, je rappelle quand même, j'ai quand même le sentiment que Verstappen avait, enfin que, pardon, Charles Leclerc avait plus à perdre que Max Verstappen. Et donc c'était peut-être logique finalement que le Néerlandais prenne un peu plus de risques. Je suis à peu près persuadé, moi, pour avoir vu quelques explications en karting à l'époque où ils étaient encore dans les bas-fonds des sports mécaniques, la Grinta, il sait ce que c'est, Charles. Je pense que le jour où il y aura un titre en jeu, qu'il aura cette chance, et il ira au combat. Il va pas tout jouer en ce moment, parce que la voiture, elle ne lui permet pas non plus de viser le titre. Je pense que cette agressivité, elle vient, il a le coup de volant, il a le talent, on le voit bien, les pole positions, c'est quand même l'exercice où il faut être vraiment dans le gain ultime de ce que la voiture peut te donner. Et je pense que l'agressivité, elle vient quand on a besoin, en fait. En même temps, on a beaucoup reproché à Max Verstappen ce surplus d'agressivité, même parfois d'être trop agressif, parfois même dangereux, pour finalement faire le reproche inverse à Charles Leclerc. Il y a un équilibre à trouver, mais cet équilibre, il est aussi influencé par l'enjeu. Et clairement, il n'y a pas, en ce moment, il n'y a pas de raison d'aller se mettre dans un mur, de prendre des risques démentiels au volant d'une Ferrari qui, de toute façon, ne va pas te donner la possibilité d'aller gagner la course ou le championnat, encore moins le championnat.
Mais la FIA ne le protège pas non plus en sanctionnant de temps en temps Verstappen. Tu vois même, à Austin, quand Verstappen le dépasse au virage numéro 12, il se jette à l'intérieur, il prend toute la largeur de la piste, Leclerc est obligé d'aller à l'extérieur, et Leclerc même, il va un peu plus au large pour bien montrer qu'il s'est fait sortir. Eh bien, la FIA n'ouvre pas d'enquête, ouais. Elle indique qu'elle a revu l'incident et qu'elle n'ouvre pas d'enquête, tu vois. Donc, il y a une note sans suite. Bon, donc on continue comme ça, et c'est pas une façon d'entretenir le combat. Verstappen contre Leclerc, on sait que ça terminera toujours de la même façon. Mais quand Verstappen a envie d'y aller, quoi.
Cette phrase, elle est très intéressante, parce que j'ai dans mes amis proches un ancien pilote, en l'occurrence en moto, qui est allé chercher une fois une victoire en allant au contact. Je parle en moto, hein, pas en ouais. voiture, en allant au contact avec son adversaire. Il s'est retrouvé évidemment en direction de course, collège des commissaires et tout, parce que c'était très très chaud. Et il est ressorti, ils attendaient la sanction. Et il disait, de toute façon, j'ai gagné. Parce que même si je suis sanctionné, la prochaine course, quand on arrivera à deux ou à trois dans le dernier virage, les autres sauront que moi, je vais au contact. Donc, ils freineront un peu plus que moi et je passerai. Et c'est clair qu'il y a un avantage psychologique sans doute en ce moment sur Max Verstappen, mais pas que sur Charles Leclerc, hein, ouais. sur tout le peloton en ce moment. Ça peut changer et je suis persuadé que ça peut changer à condition qu'il y ait l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de gagner des courses et c'est d'être champion du monde. Je ne vois pas Charles Leclerc comme un gentil petit garçon bien élevé qui laisse passer en se disant « Ah, tant pis, la prochaine fois ». Non, je ne le sens pas du tout comme ça.
Ben, moi, j'aimerais qu'il garde dans tous les cas le style qu'il a aujourd'hui et qu'il gagne, je te dis, de façon clean, comme Prost le faisait, comme Mika Hakkinen, comme Jenson Button, jamais un coup de roue, rien, ou quelque chose qui ressemble à un ultimatum sur un dépassement à l'arrache, quoi. Mais on verra comment est-ce qu'il évolue. J'espère surtout que son matériel lui donnera plus de confiance, plus de vitesse. Et qu'il ne se posera pas la question que est-ce qu'il doit devenir quelqu'un d'autre sur la piste pour aller chercher ce titre.
Eh bien, on verra ça dans les années à venir. Puisqu'on parle de l'avenir, Stéphane, on va s'intéresser au calendrier 2024, hein, parce que, mine de rien, il ne nous reste que deux épreuves à vivre dans ce calendrier 2023. La saison 2024, elle a été publiée, alors on n'a pas eu trop le temps de s'y intéresser, aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Hein. Il y aura 24 dates en 2024, première course le 2 mars, et ça c'est toi qui me faisais remarquer que c'est le début de saison le plus précoce depuis 1992.
Oui, tout à fait.
Et les moins de 20 ans n'étaient même pas nés, leurs parents ne savaient pas qu'ils seraient parents.
Et première journée d'essai le 29 février.
Oui, donc ça. Il va falloir se lever tôt.
Parce qu'il y a 24 courses de toute façon, donc il faut
les loger. Retour de la Chine, qui n'avait pas eu de Grand Prix depuis un petit moment à cause du Covid. Maintien de Imola, dont le Grand Prix a été annulé en 2023 à cause des inondations. Et puis quelques petits ajustements, et notamment. Le plus gros ajustement, c'est Suzuka, qui était habituellement dans la partie finale du championnat, qui se retrouve en début de saison.
Pour éviter le mauvais temps, la pluie.
Bah, ça, c'est pas forcément une mauvaise idée.
Voilà, le temps sera plus clément.
La saison. Mais ça fait quand même un peu bizarre d'aller à Suzuka.
Mais c'est ça. Et puis, se dire aussi que j'aime bien cette idée d'un titre en jeu à Suzuka et qui peut se conclure sur ce circuit magnifique. Ce ne sera plus le cas, je crois que c'est le quatrième Grand Prix de la saison. Bon,
après on Bahreïn, fera comme ça. Jeddah, oui. Melbourne et donc Suzuka avant d'aller à Shanghai et Miami. Et le premier rendez-vous européen, ça sera donc Imola le 19 mai. Ça sera la septième épreuve de la saison. Autre chose qui nous a fait réagir, Stéphane, cinq week-ends qui s'enchaînent, hein, d'un week-end à l'autre, et surtout trois triple headers, hein, comme on dit, c'est-à-dire trois week-ends qui s'enchaînent. Le premier avec Barcelone, Spielberg, Silverstone, 23, 30 juin et 7 juillet. Et puis, les six dernières épreuves de la saison, où là aussi, il y a deux triple headers. Hein, on va faire le circuit d'Austin, au Texas. Le week-end suivant, on sera à Mexico et le week-end d'après, on sera à Sao Paulo au Brésil. On souffle un petit peu et on retourne Las Vegas, Losail et Abu Dhabi pour terminer. Les triple headers, c'était arrivé pendant la saison du Covid et on avait dit non, mais on n'en fera plus. Il y en avait un cette saison, il y en aura trois la saison prochaine. Bon. On a le sentiment quand même qu'on fait un peu ce qu'on veut. En fait.
On va pousser sur les cadences. Mais par contre, le promoteur avait indiqué qu'il regarderait un petit peu plus la cohérence des déplacements, empreinte carbone, etc. Et puis la fatigue, hein, tout simplement, des équipes. Est-ce que tu vois des choses en amélioration sur calendrier ?
Et c'est simple. Hein, voilà, par exemple, donc on va faire Suzuka, Shanghai, OK. Miami, déjà là, ça commence à être un peu plus excentré. On va venir à Imola. On va faire Imola-Monaco. Alors là, pour le coup, OK, très bien. Et on repart à Montréal pour revenir ensuite à Barcelone. Excusez-moi, mais pendant qu'on est à Miami, on ne peut pas éventuellement aller à Montréal. Alors, effectivement, il y a une question aussi de saison. Hein, Miami au début du mois de mai. Montréal au début du mois de mai. On peut encore avoir quelques surprises. Mais c'est de la cohérence ou c'est pas de la cohérence, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est complètement fou. Mettre Montréal entre Monaco et Barcelone. Non, ne me dites pas que vous avez fait attention au déplacement, parce que là, ça ne va pas du tout.
Ouais, il y a aussi certainement des problèmes de logistique. Enfin, tout ça, c'est un petit peu complexe, mais on nous annonce des grands principes qui ont du mal à être mis en place, appliqués dans la réalité. Un calendrier à 24 grands prix, c'est déjà un record. De toute façon, Gilles, là, on va atteindre un record en 2024. Ouais. Une incohérence quand même aussi par rapport à ce qui est annoncé, parce qu'on nous demande de la rotation sur les épreuves européennes. Parce que moi, tu sais, quand je regarde un calendrier, je cherche tout de suite le Grand Prix de France. Bon, bah, je sais qu'il n'y en a pas l'année prochaine, parce qu'il faut faire de la place pour d'autres Grands Prix. Et il y a un doublon en Italie. Pour l'instant, c'est Monza et Imola l'année prochaine. Imola a eu un report en raison de l'annulation en 2023, en 2025. Donc, ils ont gagné une édition, ce qui n'était pas le cas pour tous les autres Grands Prix qui étaient annulés. Bon, mais le promoteur discute avec les autorités italiennes pour prolonger le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola dans les années futures. Et on nous dira après, il n'y a pas de place pour Spa ou il n'y a pas de place pour le Grand Prix de France. C'est quand même plus que dommage.
Il y a quand même Spa, hein, je rassure.
Ni même pour un Grand Prix d'Allemagne. Mais Spa, c'est année par année maintenant. Hein. Ouais. C'est tout. Tu vis de façon un petit peu précaire, je dirais, par rapport aux investissements qui ont été consentis. Bon, bref.
Pour toi, la France et l'Allemagne, donc, c'est les grands absents de ce calendrier 2024.
Ah ben oui, tout à fait. Et puis, l'autre grand absent que je vois de toute façon, année après année, c'est l'Afrique.
C'est un continent, voilà.
Ouais, tout à fait. L'Afrique, donc là, tant qu'on n'aura pas un Grand Prix en Afrique, ce ne sera pas un championnat du monde vraiment complet, tel qu'on peut le rêver maintenant, aujourd'hui, parce qu'on essaie d'aller partout. Et on en fait quand même encore une question d'argent, parce qu'il faut rénover le circuit de Calami. Et puis ensuite, il faut trouver quelqu'un qui a un business plan pour mettre 25 ou 30 millions d'euros sur la table en termes de droits, de prix du plateau, de tickets d'entrée. Donc on nous dit que pour les 2-3 prochaines années, c'est râpé. Donc il faut attendre encore. Bon, donc je ne vois pas de réelles améliorations. Et d'ailleurs, ce calendrier 2024, c'est un peu un copier-coller de ce qu'aurait dû être le calendrier de 2023.
Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire sans Imola et sans la Chine qui étaient prévus à l'origine et qui ont été annulés pour diverses raisons. Ça veut dire que là, on est au bout de quelque chose. On parlait aussi de ce Grand Prix à Las Vegas qui est le Grand Prix ultime. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut inventer de plus ou de différent qui peut nous surprendre ? C'est là aussi la question, parce que maintenant, on a un petit peu fait le tour. On parlait des années Clestone où le calendrier n'évoluait plus tellement. Et là, on termine un petit peu un cycle qui a été entamé en 2017 et où on retrouve maintenant les mêmes épreuves d'une année sur l'autre et qui sont signées maintenant pour 5 ou 10 ans, hein, pour
ouais, certains. Clairement. Alors justement, face à... Oui, on peut le dire comme ça, manque d'imagination sur le calendrier 2024. Eh ben nous, on a laissé voguer notre imagination avec Stéphane. On va essayer de parler des circuits qu'on aimerait bien, alors soit voir revenir, soit voir débarquer sur le calendrier du Formule 1, de Formule 1. On s'est donné 3 circuits chacun, Stéphane, qu'on aimerait bien voir en Formule 1.
Oui, et prendre... Enfin, quand on pense à une nouvelle épreuve, pas forcément un Grand Prix urbain, mais faire ressurgir du passé un beau Grand Prix qu'on appréciait, ou alors peut-être un nouveau circuit qu'on n'a jamais vu.
Exactement.
Alors, je te laisse la parole, Gilles, pour me dire quels seraient tes 3 Grands Prix rêvés.
Alors, moi, je vais faire part, je vais monter en puissance. Évidemment, on se le dit tout de suite, on oublie toute logique financière de cohérence, quoi que ce soit. Hein.
C'est sécuritaire aussi,
voilà,
parce que...
Oui. Le voilà. Fantasme ultime, moi, je commence déjà par un circuit. Alors, il faudra aller regarder, on va vous mettre quelques images, mais... pour ceux qui écoutent le podcast, faudra aller regarder sur des moteurs de recherche. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille à Elkhart Lake aux États-Unis, un circuit qui s'appelle Road America. C'est dans le Wisconsin, c'est au nord de Chicago. C'est une sorte de spa à l'américaine, 6,5 km, avec des portions où ça va très très vite, des grandes courbes, beaucoup de dénivelé. Honnêtement, tu sais que j'ai eu un passé avant Eurosport et j'ai commenté pas mal de courses sur ce circuit d'Elkhart Lake. À chaque fois, C'est ultra spectaculaire. Vraiment, j'aimerais bien voir une course de Formule 1 à Elkhart Lake. Il y a de l'IndyCar. C'est bien. À toi, Stéphane, premier de tes trois choix.
Alors moi, pour mon premier choix, j'aimerais bien revoir l'ancienne Österreichring, qui est devenue le Grand Prix de le circuit de Spielberg, le Red Bull Ring, dans une forme raccourcie, avec 8 ou 9 virages.
Enfin, et sécurisé maintenant.
Et qui ne ressemble plus à grand-chose. La dernière fois que ce circuit a été utilisé, c'était en 87. Il y a eu 2 carambolages au départ et ça a mis fin à l'épreuve parce qu'il n'était pas considéré comme sécure, ce que je trouve un petit peu dommage, mais on met de côté l'aspect sécurité vraiment.
Là, c'est pareil, il faut aller chercher des vidéos, caméras embarquées. C'est fou, les vitesses, c'est dingue.
Alors, il faut savoir surtout qu'à l'époque, l'Österreichring était considéré loin devant Spa comme le plus beau circuit du monde, utilisé en Formule 1. C'est-à-dire que c'est un toboggan qui ne s'arrête jamais. Je vois la pole position de Piquet signée en 1987, c'est 256 km/h de moyenne. Il n'y a pas une chicane, il n'y a rien, c'est que du fluide.
Il y a quasiment 40
voilà,
ans.
C'est une partie de pilotage absolument fantastique. J'aimerais revoir ça et il y a quelqu'un qui se bat pour remettre au goût du jour ce circuit. C'est Helmut Marko chez Red Bull. Et il se bat pour racheter des terrains, demander à des propriétaires de bien vouloir le vendre, des portions,
revendre leur terrain,
revendre leur terrain pour réhabiliter la piste qui en fait s'arrête aux 2/3 à peu près de la montée réelle de l'ancien Österreichring. Là, on tourne à droite au premier virage et normalement ça continuait plus haut auparavant, et puis on était parti sur une grande courbe, hein, c'était à fond, et là c'était un circuit intimidant, il y avait des pilotes qui osaient dire quand même qu'ils faisaient peur, un petit peu, exactement, parce qu'il y avait des barrières de sécurité aussi qui étaient proches. Bon, moi j'aimerais revoir ce circuit-là, quand même.
Alors, on va rester dans le même style, évidemment, hein, des circuits que j'aimerais bien revoir en Formule 1, rêve, c'est la Nordschleife, la boucle nord, donc du Nürburgring. Bon, circuit de 20 km, là, ceux qui ont vu des caméras embarquées, c'est un circuit sur lequel on continue de rouler, hein, d'ailleurs, mais pas en Formule 1. C'est un truc de fou, quoi. 20 km dans la forêt, là, avec des virages de fou, le carrousel. Enfin, voilà. Rien que dire un circuit de 20 km, déjà, tu
22, même, je crois, oui. Et puis, c'est là où Fangio a fait son exploit en 1957. Enfin, il a fait rentrer dans la légende. Moi non plus. Hein, je ne sais pas ce que tu as signé. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord tout à fait. Et alors, moi, je pense à un circuit un petit peu comme tu l'as évoqué. Moi, je verrais bien un circuit comme Charade ou alors Clermont-Ferrand, si vous préférez. C'est un circuit qui était près de Clermont-Ferrand, qui a été support de 4 Grands Prix de France dans les années 60-70. C'était un circuit naturel, vallonné, au pied des volcans, extraordinaire. Stirling Moss disait c'est le plus beau circuit du monde. Tout à fait. Donc, c'était 8 km à flanc de montagne, 51 virages. Voilà, c'est pas le hors norme du Nürburgring, mais 8 km, de toute façon, ce sera encore
51
trop
virages
pour
en 8 km.
Les standards. Ouais, tout
ça
à fait.
Fait tourner,
mais
hein.
Encore une fois, pas de chicane, que une partie de pilotage. Ouais. Voilà. Donc,
mon troisième et dernier circuit à moi que j'aimerais bien voir en Formule 1. C'est Mount Panorama en Australie, à côté de, c'est à 200 km de Sydney, c'est à Bathurst où il y a une épreuve, où il y a pas mal d'épreuves de V8 supercar. C'est un circuit complètement fou avec une partie, en fait il y a deux circuits en un. Vous avez une partie en bas qui ressemble un petit peu, allez on va dire au circuit de la Sarthe, hein, c'est-à-dire des portions avec des lignes droites où on va vite. Et puis ensuite sur une partie de montagne, donc Mount Panorama. Et vous avez une sorte de spécial de rallye de Monte-Carlo. Il y a près de 180 mètres de dénivelé entre la partie basse et la partie haute du circuit. C'est juste phénoménal. Et Jenson Button y a roulé en monoplace. Je crois qu'à l'époque, c'était avec la McLaren. Ils étaient allés faire un essai, voire faire une démonstration.
Et puis le décor, les images que ça donne aussi sont sublimes.
C'est incroyable.
Ouais. C'est une carte postale.
En avoir parlé avec Yvan Muller, qui avait participé aux 1000 km de Bathurst à l'époque, il disait, quand tu es en haut du circuit et que l'hélicoptère suit une voiture qui est en bas, tu vois l'hélicoptère de haut. C'est la première fois que je vois un hélicoptère d'au-dessus. Bon, il avait le temps de regarder, lui, par la fenêtre, ce qui se passait. Enfin, c'est assez phénoménal, là aussi, à regarder des vidéos. C'est assez hallucinant. Ton troisième et dernier circuit que tu aimerais bien voir en Formule 1, Stéphane ?
Alors, ça recoupe un petit peu ce que je disais sur la saison 2024. Moi, j'aimerais bien revoir Calami, tout simplement, pour le symbole. Voilà, pour qu'on remette les pieds en Afrique, sur un circuit qui a aussi été... qui fait partie de l'histoire de la Formule 1. Et quand on aura ça, on aura vraiment une belle Formule 1.
Oui, sans doute, effectivement.
Un beau championnat, voilà.
Oui, clairement. Et une cohérence, puisqu'on nous parle de cohérence du calendrier.
Tout à fait. Et pour revenir sur Las Vegas, qu'on prétend être, je dirais, le Grand Prix ultime, quelque chose qui va faire rentrer la Formule 1 dans une nouvelle dimension. Moi, j'ai regardé un petit peu les Grands Prix qui avaient marqué l'histoire de la Formule 1. 1950, c'est Silverstone. C'est le début du championnat du monde, tout simplement. Et déjà, c'est énorme. Il y a 200 000 personnes sur place. Donc, on sait que c'est un événement. Le roi George, sa fille Elisabeth. Bon, voilà. Donc, c'est l'événement. Puis après, en 1953, on a l'Argentine qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'on rend hommage à un grand pilote, Juan Manuel Fangio. Et là, on est dans le sport. On a envie de faire plaisir à un public aussi qui est passionné de sport auto. Et c'est pas le business qui domine à l'époque, c'est vraiment des choses évidentes comme ça.
Comment on n'a pas parlé des circuits en Argentine ? Il y a des circuits exceptionnels
mais bien sûr,
en Argentine.
Bien sûr.
Et puis, c'est vrai.
Dans cette logique-là, en 73, on va au Brésil pour Emerson Fittipaldi. On va aussi en 73 pour Ronnie Peterson qui devient une star en Suède. Il y a un Grand Prix de Suède là-bas. Voilà. Donc, j'aime cette logique-là où on a franchi des paliers à chaque fois, on a enrichi le calendrier. Puis après, il y a eu d'autres choses plus spectaculaires. 86, c'est le Grand Prix d'Hongrie. Là, on se dit, là encore, on rentre dans une nouvelle ère. On fait un Grand Prix derrière le rideau de fer en Hongrie. C'est un cap supplémentaire. Je ne sais pas si ça a participé à l'ouverture, mais en tous les cas, ça a peut-être joué un rôle. En 99, c'est le Grand Prix de Malaisie. Là, c'est le premier circuit moderne où on dit, on part de rien dans un nouveau pays qui n'a pas tellement de culture de sport automobile. Et puis, on fait un circuit de A à Z. Et c'est le premier circuit d'Armen Tilke. Tout simplement, puis après, il y en a d'autres qui vont suivre.
Bah, il avait eu des bonnes
Grand
idées.
Grand Prix dans le désert
en
2004. Il avait
mis toutes ses bonnes idées sur celui-là.
À Bahreïn. Et puis après, c'est la Chine quand même. Tu regarderas bien, à l'époque, ce qui m'avait marqué vraiment, c'est que les écuries, les sponsors, mettaient le pied dans un pays qui est 50 fois plus grand que la France. 1,3 milliard de consommateurs. Et ça devait permettre à la Formule 1 de franchir un palier. Et je ne suis pas sûr qu'on y soit vraiment arrivé, mais ça, c'était une promesse. Et puis, le dernier grand événement pour moi, c'est le Grand Prix de Singapour 2008, la course en nocturne. Et je suis un petit peu plus réservé sur ce qu'on a fait depuis, Grand Prix de Miami. Et puis, on verra bien ce que donne cette année le Grand Prix de Las Vegas ou sur la longueur, puisqu'ils ont l'intention de s'inscrire dans la durée.
Alors, on a reparlé de l'Inde aussi pendant un moment, mais ça n'a pas l'air d'être trop d'actualité. Voilà, on s'est laissé aller à nos rêves de destination de Formule 1. Plus prosaïquement, Stéphane, on va redonner les horaires. On a parlé des horaires un petit peu inhabituels de ce Grand Prix de Las Vegas. Je vais vous donner les horaires français quand même, parce que à moins que vous alliez sur place, et vous aurez bien de la chance. Sinon, il va quand même falloir se lever à 5h30 hein, vendredi pour voir la première séance d'essai libre. La deuxième séance, ça sera à 9h. Ensuite, samedi, troisième séance d'essai libre, pareil, à 5h30. La qualif est à 9h, c'est quand même plus raisonnable. Et le Grand Prix, dimanche, 7h du matin pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison, avec évidemment ce départ et ce passage sur le strip. Il y a quand même quelques endroits. Je suis curieux de voir en fait les images. Après, on regarde pas le décor à chaque tour, pendant 50 tours sur un Grand Prix de Formule 1. À un moment, on s'intéresse un peu à ce qui se passe sur la piste.
C'est nous on aime le sport et c'est d'abord ce qui se passe du coup d'envoi jusqu'au drapeau à damier. On espère peut-être même un vainqueur différent. Si ce Grand Prix pourrait être extraordinaire, si Max Verstappen pour une fois ne gagnait pas. Voilà.
Allez, comme ça, c'est dit. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Mettons nos montres à l'heure du Nevada, Stéphane. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là,
on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.